Bonjour et bienvenue dans Les mots qui délivrent, le podcast 100% belge qui parle d'écriture et de création. Tu vas découvrir à quel point les mots nous font du bien et peuvent même parfois nous sauver. Moi c'est Louise, je suis autrice, coach littéraire et bibliothérapeute. J'ai fondé Le mot qui délivre et le Slow Reading Club il y a quelques années. Dans ce podcast, j'interviewe des plumes qui ont décidé de s'emparer des mots pour dire, révéler la vie, l'humain, la créativité. Et parfois tout simplement juste pour aider et inspirer. Pour cette nouvelle saison, il y a une nouveauté. Tu peux maintenant faire partie de la communauté du podcast sur Tipeee. Mais c'est quoi cette plateforme? Eh bien, c'est une plateforme qui sert à soutenir le podcast, ainsi que d'autres créateurs. Et ce contenu que je crée avec le cœur, il pourra ainsi continuer à vivre sa vie durant plusieurs saisons. Tu peux ainsi l'aider à se développer en faisant un don, un tip, après l'épisode que tu as écouté. Et en échange de cela, tu as accès à des bonus ou à d'autres contenus inédits. Alors, après cette écoute, rendez-vous sur Tipeee. Le lien se trouve dans le descriptif de chaque épisode et sur mon Instagram. Ah, voilà, on respire, c'est parti. On va plonger dans de nouveaux échanges vibrants, passionnés. Parce que oui, les mots délivrent. Il suffit juste un jour d'oser exprimer. Hello, je suis avec Elodie Christophe et Morane Terlier. Et comme promis, on vous l'avait promis, on fait un épisode pour revenir un petit peu sur leur belle aventure respective de l'édition, l'auto-édition de leur premier livre. Salut Elodie.
Hello, comment ça va?
Ça va et Morane, comment vas-tu?
Je vais très bien, encore en congé quelques jours, donc je vais très très bien, je me ressource.
Super, mais oui, effectivement, là, on est encore dans les chaleurs de l'été. On est tranquille chez Elodie qui nous reçoit et on va vraiment passer quelques minutes, peut-être une heure ensemble pour revenir sur ce projet. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on refasse un petit peu machine arrière, qu'on revienne au tout début de l'histoire? Vous vous êtes dit un jour, toutes les deux, j'ai envie d'écrire un livre. Ça commence comme ça, avant de l'auto-éditer, avant de le découvrir dans les mains de lecteurs et lectrices. Morane, j'aimerais venir vers toi parce que, quitte à apprendre la chronologie, je me souviens, je crois que j'ai commencé les coachings avec toi avant Elodie, hein, c'est ça? Donc, il me semble. Donc, est-ce que tu veux bien refaire un petit peu le topo? Pourquoi écrire un livre?
Pourquoi écrire un livre? Donc, c'est vrai qu'au tout départ, moi, c'était, j'ai d'abord livré un blog, mais très rapidement, je me suis tournée vers le livre parce que j'aime l'objet et que les coachings m'ont permis de croire à l'objet livre et que je pouvais en créer un aussi. Mm-hmm. Donc c'est vrai que là, on remonte dans le temps, donc je ne sais déjà plus quand exactement c'était. Mais on va dire été 2020, quelque chose, même un petit peu avant.
Un petit peu avant, ouais, effectivement. Ouais. Ce que je peux faire, c'est inviter les auditeurs, les auditrices à aller voir dans le déroulé des épisodes du mot qui délivre, des mots qui délivre. Il y a un épisode qui est consacré exactement, précisément à la genèse du projet. Mm-hmm. Et à ce moment-là, effectivement, ils pourront peut-être un peu avoir des précisions quant à l'idée et l'envie d'écrire. Mais est-ce que tu peux résumer en quelques minutes le propos, l'intention de cette écriture, de ce livre?
Oui, donc le livre que j'ai écrit, il démarre quand même d'une histoire personnelle, d'un vécu. Donc c'est un récit de vie qui traite principalement du sujet du deuil périnatal. Mais c'est vrai que tout de suite, je suis allée un petit peu plus loin aussi que le sujet unique du deuil périnatal, où je parle avant tout d'une histoire de femme, de couple aussi, mais aussi des thèmes comme la prise en charge médicale, parfois altérée de la femme, surtout au niveau gynécologique. Je parle aussi d'IVG, des thèmes dont on parle énormément pour le moment. Mmh. Donc voilà, je pense que c'était essentiel de pouvoir mettre ça en lumière. Alors à la base, c'était d'abord pour moi et rien que pour moi.
Voilà, c'est ça.
Oui, je voulais d'abord écrire juste pour moi, avoir un recueil de cette expérience. Et puis alors, grâce au coaching, tout doucement, je me suis autorisée à me dire « je pense qu'on peut aller plus loin, que ça va parler à d'autres femmes ». Et donc voilà.
Super, merci. Effectivement, un récit de vie, un récit personnel qui part d'un drame, d'une histoire vraiment
malheureuse qui t'arrive au départ et qui se transforme en quelque chose qui débouche sur beaucoup d'amour et également cette force que tu as trouvée en toi de pouvoir exprimer tous ces tabous. Un tabou principal qui est le deuil périnatal, mais comme tu viens de le résumer aussi, tout ce qui touche de très près en fait le corps de la femme. C'est ça, c'est
bien sûr. Oui.
Évidemment, je vous invite à lire et à découvrir si ce n'est pas encore le cas. Tu parles du blog, tu parles en fait d'oser aller écrire pour toi. Et puis après, écrire un livre. On va y revenir dans le process qui fait que le livre arrive dans les mains des gens. Mais merci à toi d'avoir déjà un peu élucidé ça. Élodie, de ton côté, c'est quand une autre histoire, dans les deux sens. Une autre histoire de livre et une autre manière d'aborder l'écriture chez toi.
Tout à fait. Donc, j'ai toujours écrit et je voulais être écrivain, mais il n'y avait pas d'études pour être écrivain, pas chez nous en tout cas. Donc, je me suis tournée vers le journalisme en presse écrite avec toujours cette idée qu'un jour j'écrirai un livre, sans doute. Même si j'en avais déjà un peu écrit quand j'étais plus jeune, mais rien qui me donne une forme concrète. Et puis, j'ai eu cette image un jour, donc la première image de mon roman Derrière le rideau, et peu de temps après aussi, après un décès. Dans ma famille, j'ai eu envie de reposer des mots, de m'évader, et donc j'ai retransmis cette histoire. J'ai pas l'impression d'avoir créé, mais plutôt d'être finalement le transmetteur de quelque chose qui se déroulait quelque part, et voilà, de la transmettre et d'en faire un roman. Donc c'est vrai qu'au bout de quelques pages, je me suis dit, bah, est-ce que, d'abord je disais j'écris une histoire sans pouvoir mettre un mot sur l'objet livre. Et puis à un moment, bah, je t'ai montré quelques pages pour avoir ton avis. Donc c'était aussi en Covid, on a fait un coaching à distance et pour voir si tu me disais ok, ça vaut la peine, ça ressemble à quelque chose ou pas. Et puis tu m'as dit vas-y, continue, modifie ça et puis on verra.
Oui, mais justement, merci pour ce que tu amènes parce que modifie ça, coaching, on va rentrer dans une phase qui est réelle et qui est la phase qui précède la mise en vente, la mise en publication d'un livre qui est bah, de travailler et de retravailler et de re-retravailler. Donc, comment on fait, comment vous avez fait, parce qu'il y a les coachings, et puis après, on sait bien que vous êtes chacune inscrite après un cercle d'écriture qui vous a aussi accompagnée, qui vous a entourée avec des plumes. Il y a d'autres choses aussi dans vos vies personnelles qui ont pu être des soutiens. Comment se passe cette écriture, réécriture, cette amélioration du baby projet, j'ai envie de dire, qui est... je veux écrire, et puis pour moi, et puis peut-être pour un public, et que ça évolue. Comment ça se passe dans les grandes lignes? Qu'est-ce qui paraissait le plus important à raconter Oui, vas-y, Maureen, elles se regardent, elles sont super adorables. Elles ont l'habitude d'évoluer ensemble, de participer à plein d'activités, de rencontres, de dédicaces ensemble, et je les vois complices, hein, je vous le dis. Et c'est chouette, parce que elles sont trop de politesse, là. Maureen, allez, vas-y, raconte-nous comment ça se passe, comment on fait, quoi.
Je pense qu'on se laisse surtout porter par ce qui arrive. Autant on peut mentaliser énormément de choses dans ce projet-là, mais il y a un vent, là, comme ça, et on se laisse vraiment porter. Et heureusement, parce que si j'avais effectivement mentalisé toutes les étapes avant, voilà, ça peut faire parfois un petit peu peur parce que c'est quand même dense. Maintenant, c'est une magnifique aventure. Alors, ben, c'est vrai qu'il y a eu les coachings et puis j'ai intégré un cercle d'écriture. Moi, c'est vraiment quand j'ai intégré ce cercle d'écriture et que j'ai commencé à lire mes textes, alors que j'avais la frousse, hein, qu'on se le dise, mais que, ben voilà, au bout de mon texte, j'ai vu des larmes dans leurs yeux et c'est là que j'ai commencé vraiment à croire en moi et à ce que je pouvais livrer. Après, il y avait des retours très constructifs aussi pour justement la réécriture. Alors, je pense qu'il y a mille façons d'écrire. Moi, c'est vrai que j'ai eu besoin de tout poser et j'ai un petit peu foncé comme une fusée. J'avais besoin de m'y mettre pratiquement tous les jours. Il y avait vraiment quelque chose qui devait sortir. Alors, c'est vrai qu'au moment de l'écriture des chapitres, il y avait quand même une réécriture. Et là, oui, il y avait les coachings, mais il y avait aussi de ta part une correction de chaque chapitre dans un cadre de première écriture aussi. Donc ça, c'est quand même une période assez longue qui prend quelques mois, mais ce n'est que mon exemple, évidemment. Ça peut prendre des années ou des semaines.
Hein. Globalement, je pense que vous êtes dans une... J'aime pas dire le mot moyenne, mais que ce soit Elodie ou toi, c'est un processus qui a pris entre 1 an et 2 ans chez chacune, et j'ai l'impression que c'est la bonne étape pour quelqu'un qui s'y dédie, quelqu'un qui franchit les étapes, comme vous les décrivez, de se lancer une première réécriture et puis avoir des feedbacks, tester, lire des extraits, avoir des feedbacks, que ce soit en cercle, en bêta lecture, etc. Donc ouais, plusieurs mois, ben, 1 an, voilà quoi, ouais.
Et puis ben après ça, quand on a l'impression d'avoir ficelé un peu notre première grosse écriture, voire allez, une première réécriture, ben là on commence à sélectionner, entre guillemets, j'aime pas du tout, c'est pas le mot sélectionner, mais choisir en tout cas des bêta lecteurs, donc des personnes que l'on choisit parce que on pense qu'elles pourraient nous amener quelque chose de très constructif dans la relecture de notre récit. Alors là, c'est vrai que même si parfois elles nous disent un petit truc sur la forme, c'est surtout le fond qui compte. Et donc là, ça nous donne déjà un premier tour de la qualité, entre guillemets, du récit. Et puis alors, ben, suite à ça, il y a encore une multitude de réécritures. Là, je pense que ça peut être quasi infini.
Oui, on y reviendra, voilà. Effectivement. On reviendra vers cette phase de réécriture qui mène à la fin, à toute fin, proche ou semi-proche du projet. Mais effectivement, j'entends qu'il y a vraiment cette phase. Et j'ai envie de préciser, d'aller rappeler mon propre souvenir de cette première écriture, de ce premier jet. J'ai l'impression que tu prenais tout, quoi. Toutes les nourritures qu'on t'envoyait, tu les prenais. Tout le temps que tu avais de temps libre de femme que tu pouvais chercher, que ce soit en plein Covid, que ce soit après. J'ai ce souvenir de Morane qui ne lâchait rien, qui était presque comme dans un sacerdoce avec son écriture. J'ai l'impression que tu dormais, tu vivais, tu respirais avec ça. C'est le souvenir que j'en garde. Et puis après, effectivement, la découverte d'autres plumes. Et puis, par l'intermission des cercles et des plumes Élodie aussi... Et la preuve, c'est que maintenant, vous évoluez quasiment côte à côte dans vos aventures respectives. Donc, toi, Elo, je peux t'appeler Elo. Hein. comment tu as envie de résumer, synthétiser ? Parce que là, il s'est passé tellement de choses en 2 ans, mais ce moment d'écriture, réécriture, préparation, ligne finale.
C'est vrai qu'après te l'avoir soumis, moi, je l'ai soumis à des... J'aurais pas dit bêta lectrice à l'époque, parce que je pensais pas dans ces termes-là, mais plutôt à des amis... avec des profils différents au niveau du profil de lectrice, donc qui lisait beaucoup ou pas beaucoup, pour avoir justement, donc moi c'est un récit quand même feel good, donc c'est un truc assez léger. Et j'avais envie de voir, tiens, quel était le ressenti juste sur le contenu, comme Morane disait, plutôt le fond évidemment, même si elles ont des interventions sur la forme. Et ce qui était très chouette, c'est qu'elles me rendaient un contenu écrit aussi, j'imagine comme toi, et du coup de voir leurs réactions en direct parfois, je me rappelle d'un nom écrit dans la marge, c'était vraiment drôle. Et puis après, plus spécifiquement, j'ai fait relire alors des personnes, notamment pour la cohérence du récit par rapport à la profession du héros principal, par exemple, ce genre de choses. Et puis pour le contenu pro, pour le côté proche, compter sur toi, évidemment, et sur le retour du cercle et des filles qui étaient là. Et je rejoins Morane dans le sens où quand on lit un extrait de son roman au cercle, le fait d'avoir en direct, donc là j'avais eu sur papier, mais encore plus en direct les réactions des gens, alors que tu parlais de larmes, mais ici c'était des rires ou des cris. Oui, voilà. c'est un test, vraiment une incroyable opportunité de pouvoir tester comme ça, je trouve. Alors effectivement, il faut oser au début, hein, donc c'est pas toujours évident.
J'imagine que la première fois que vous lisez, ça va pas être évident. Moi-même, une fois, on m'a demandé d'en lire un, j'étais sympa. Moi, je suis sentie animée. Donc, même pour tout le monde, c'est la même chose. Le premier texte qu'on partage à voix haute, et qui sort de ce petit cadre intime de sa chambre, de son PC, ou même de quelqu'un qui l'a lu à côté, discretos, mais que vous le portiez avec votre propre voix, vous l'avez ressenti fort, tout d'un coup, j'ai l'impression.
Oui, c'est clair.
Ah, mais c'est chouette, je vous vois sourire, donc c'est des bons souvenirs aussi, parce que pour moi, ça manifeste aussi des petites étapes, des grandes étapes de petites craintes, d'appréhensions qu'on peut à chaque fois surmonter, quoi, jusqu'à arriver à un livre qui sort. J'insiste à chaque fois là-dessus parce que c'est quand même pas anodin de dire que votre livre il est partout dans les librairies en Belgique et qu'il s'achète encore et toujours 6 mois après, quoi. Donc ça c'est merveilleux. J'ai l'impression que le cercle, comme vous l'amenez, c'était vraiment le laboratoire en fait. Et à côté, ces personnes qui lisent bêta lectrice, amis, etc. Donc, ce qui est très intéressant, et ça, je l'envoie vraiment aux personnes qui nous écoutent, c'est que. à tes souhaits.
Désolée.
Moi, c'est ça que j'aime bien en podcast, c'est qu'on est juste comme à la maison. Quoi. On est chez toi d'ailleurs, tout va bien. Oui, par rapport aux bêta-lecteurs, bêta-lectrices, c'est vraiment un petit tuyau qu'on peut envoyer aux auditeurs, aux auditrices, c'est que n'hésitez pas à soumettre en confiance à des personnes qui sont vraiment investies vis-à-vis de vous, et pas juste par une simple curiosité.
Et qui seront honnêtes, je trouve, et qui vont vraiment donner un avis, voilà, je trouve, enfin, désolée de te couper, mais ici, pour le second, je réfléchis aussi, donc j'ai voulu prendre une série des mêmes personnes, et j'ai demandé aussi à insister sur tel aspect ou tel aspect, voilà, d'être vraiment honnête et transparent, et pas juste dire « Ah, chouette, j'ai bien aimé ».
Ouais,
on a besoin de plus, quoi, quand on a besoin d'un premier tour, en tout cas, sur un premier jet.
Mais je crois que c'est ça, peut-être, la différence entre des amis à qui on soumet et après ce qu'on va considérer comme des bêta-lecteurs ou bêta-lectrices, c'est vraiment d'aller cibler, parce qu'on est déjà en train de, c'est pas un beau mot non plus, mais de les utiliser pour une raison précise. Et toi, Morane, de ton côté, c'était vraiment en conscience aussi, tes bêta-lectrices, comment ça s'est passé?
Oui, et en même temps, j'ai tout le temps attendu qu'il se passe quelque chose, un événement, parce que j'avais déjà toutes les plumes du cercle autour de moi qui auraient pu faire de parfaites bêta-lectrices, qu'on se le dise. Mais je ne sais pas, j'attendais peut-être encore plus. Ou est-ce qu'elles, elles avaient finalement déjà leur place leur place rôle, était voilà, dans le cercle, qui était déjà, ce qui était déjà énorme. Et donc, ben oui, ma première bêta-lectrice, je m'en souviens, c'est une plume qui participe plutôt aux ateliers d'écriture. Mais alors qu'il y avait toute sa connaissance dans le milieu médical, de la prématurité, et donc je trouvais qu'elle pouvait aussi apporter quelque chose d'assez professionnel par rapport au récit.
Et une réalité aussi.
Voilà, une réalité, quoi. Voilà. Et puis moi, j'ai fonctionné, j'ai écrit en fonction de mes souvenirs. Donc il y avait des mots aussi, je voulais qu'ils soient justes. Et parce qu'il faut qu'il soit bien interprété par tout le monde. Et puis alors, pour les autres bêta-lectrices, parce que bon, c'est public féminin, voilà.
Je pense que les habitués du Mauvais Livre savent que c'est essentiellement féminin, pas qu'on le recherche essentiellement non plus, mais donc
ça, se fait comme ça
attire aussi des plumes, des voix, des lectrices féminines, quoi, voilà.
Ouais. Et mes deux autres bêta-lectrices... étaient des plumes qui avaient sorti leur livre, donc voilà, des rencontres coup de cœur, évidemment, mais je pense que, étant donné qu'elles étaient passées par là récemment, elles savaient vraiment ce que j'attendais d'elles, même si moi je ne le savais pas toujours, parce que c'était ma première expérience, donc ça c'était vraiment chouette, quoi.
Oui. Mais j'entends vraiment que en fait il y a vraiment cet élan qui est le vôtre et puis et qui est primaire et qui est précieux, et c'est ça qu'il faut chouchouter, et c'est parfois sur ça aussi que je veille à mettre l'accent quand on se voit. Mais moi je vois aussi de plus en plus que ce soit vous ou d'autres plumes qui sont en train de finir, d'autres qui ont terminé cet été en retraite, l'entourage, quoi. On va appeler ça l'entourage, je sais pas comment le dire autrement, mais c'est merveilleux de l'entendre. Moi je suis honorée et privilégiée de me dire que j'ai pu faire partie de cet entourage. Je pense qu'il y a beaucoup de plumes, je peux imaginer, voilà, je pense à ton lancement de livre, je pense à plein d'un moment, à la rencontre d'auteurs, d'autrices où vous étiez le 30 juin, ou d'autres rencontres. Elles sont chaque fois super heureuses de venir vous voir, et je pense qu'elles se sentent aussi...
Beaucoup de soutien du
staff. Ouais, privilégiée d'être un peu... Je pense à une plume, Catherine, elle fait un petit clin d'œil, qui parfois dépose vos livres dans des librairies, et qui me dit, j'ai l'impression que si je les dépose, c'est comme si c'était moi qui l'avais écrit avec elle. Et je trouve que c'est une anecdote très touchante, parce qu'on a l'impression de, non pas de l'avoir fait avec vous, et ça j'insiste à chaque fois, vous l'avez fait vous-même comme des déesses de l'écriture.
Jamais d'exagération.
Non, ils sont en train de rougir, de lever les yeux au ciel. Mais c'est gai de se dire qu'on peut faire partie de l'aventure avec vous, quoi. Et que c'est partagé, et que c'est vécu en collectif aussi. J'aimerais maintenant qu'on aille dans une troisième étape qui est... on arrive à la fin de la fin. C'est-à-dire que ça a été écrit premier jet. Il y a eu des retours, les miens, des bêta-lectrices, plein de les cercles, etc. On réécrit, on retravaille plusieurs mois, tu l'as dit, Morane, voire plusieurs longs mois. Et puis, à un moment donné, dernière réécriture. Comment on sait, comment vous avez senti, là, c'est bon. Je n'y touche plus, on passe à l'étape édition, auto-édition. Vas-y, Elio.
Moi, je crois que ça a été un petit peu... pas trop le choix, parce qu'on avait fixé une date de sortie.
Ah ben voilà, c'est une
plus ou moins une date de sortie, en tout cas. Et donc, c'était, bah, en fait, il faut s'arrêter à un moment donné parce que, donc, après les bêta-lectrices, il y a eu, on n'a pas encore évoqué, mais tout ce qui est la correction, ouais, orthographique, grammaticale, syntaxique, etc. Donc là, on n'est plus sur
c'est
le.
Encore une autre passoire,
voilà, c'est encore une autre passoire, c'est la dernière, en tout cas. Une fois qu'on a eu celle-là, bah, que c'est fini, on ne peut plus bouger, on risque de refaire des fautes si on bouge, j'ai
oui,
envie de dire.
Oui, franchement, oui, c'est vrai.
Donc, on a un peu, voilà, on a un peu tenu finalement d'en rester là. Et puis, comme tu dis, à un moment donné, il faut se mettre un stop. Et comme moi, j'avais prévu un lancement début mai de cette année, quand on fait le recul en arrière, le temps qu'il faut pour l'impression, le graphisme, la mise en page, etc., il y a un moment donné où on doit s'arrêter. Donc, ça a ouais. été vraiment ça.
Et comment lâche prise? Parce que je vous ai vu, parce que évidemment, j'ai pu vous accompagner pendant. La chose que j'ai découverte en même temps que vous, c'est qu'en fait, j'ai pu éventuellement parfois vous accompagner aussi après, mm-hmm. ou dans le processus de. Parce qu'il y avait parfois besoin de se poser des bonnes questions, etc. Et moi, une première question que j'avais envie de vous poser, même si je connais un peu la réponse, mais pour partager ça aux auditeurs, aux auditrices, c'est comment on lâche prise? Comment on lâche prise de dire « j'y touche plus » Toi, Morane, comment ça s'est passé? Parce que là, il y avait moins de la précise, j'ai envie de dire. T'as bien dû aussi dire « là, je lâche prise, je ne peux plus contrôler ce truc-là pendant des mois encore. »
On se met une claque. Je pense que
j'adore.
Voilà. Mais je pense
c'est
qu'à un moment
donné,
voilà.
C'est aussi l'impatience, non,
mais
d'avoir.
Oui, à un moment donné, il y a même si on a la sensation de, enfin moi j'avais la sensation de ne pas avoir été quand même jusqu'au bout, comme si ce n'était jamais assez.
Ouais.
Et en même temps, je sais que voilà, c'est ma personnalité qui fait ça aussi. Rien ne sera jamais assez bien et parfait. Mais oui, je pense qu'à un moment donné. On a aussi besoin de lâcher tout parce qu'on n'apprécie plus
mm-hmm.
non plus ce qu'on lit et ce qu'on écrit. Ça, c'est une
ça,
réalité.
C'est mm-hmm. Je te remercie de l'amener
ouais,
parce qu'il y a un dégoût.
On en a marre de se relire.
Un écœurement, peut-être.
Ouais, on en a marre, ouais.
Peut-être pas ça, mais un écœurement.
Oui.
En tout cas, ouais.
Ça devient dur. La passion qu'on avait dans la réécriture, moi, j'ai vraiment adoré les premières réécritures. Je trouvais ça vraiment chouette. Mais là, ça devenait plus possible, quoi. Mmh. Donc là,
même
j'ai
physiquement
dit...
et énergétiquement,
ouais.
hein,
ouais.
je vous ai vu très fatiguée à certains moments, l'une ou l'autre.
Oui, tout à fait.
En mode, prenez soin de vous, les filles.
Oui, oui, oui.
Ouais. Donc c'est la claque, quoi, c'est ça.
Oui, et c'est voilà, je vais dire, je rigolais un petit peu quand je disais on se met une claque, mais je me dis, là, c'est bon. Quand j'ai commencé à sentir que la coupe devenait pleine, il fallait que j'arrête, quoi. En sachant, évidemment, que le livre était passé par toi, par les bêta-lecteurs, par des bêta-lecteurs aussi, je vais dire, comme mon compagnon, etc.
Oui, oui,
donc, ils font partie aussi des bêta-lecteurs. Par des correctrices professionnelles.
Mm-hmm.
Bon, là, voilà, je ne pouvais pas donner mm-hmm. plus, en tout cas, pour ce récit-là.
C'est intéressant parce que moi, ce que j'entends, ce que tu dis, c'est que le lâcher prise, il peut aussi venir de... Moi, je vous le dis toujours en coaching, c'est de traverser l'émotionnel et puis après, rationaliser et se dire,
ouais.
ok, je lâche prise, mais ça va, quoi. Comme tu viens de le mentionner, il y a toute cette équipe mm-hmm. de professionnels multiples, de points de vue multiples qui sont penchés sur le bouquin et il n'y a pas de raison que ce soit dramatique, en fait.
Mm-hmm.
Loin de là, d'ailleurs. Mais je veux dire, pour vraiment rationaliser,
non.
se dire, ok, il y a l'émotionnel, c'est normal, on l'accompagne, on va lâcher un truc énorme pour nous. On espère qu'il sera énorme pour les autres aussi, mais il est déjà de base pour nous. Et toi, Élodie, tu as envie d'ajouter des choses par rapport à cette dimension?
Mais tu parles de rationaliser, je crois que c'est ça. Je crois que c'est à un moment donné où on sort du rôle d'auteur, surtout quand on va se lancer dans l'auto-édition.
Mmh.
Alors, comme je le dis, l'auto-édition, ça ne veut pas dire solo-édition. On vient de le dire, on n'a pas fait ça toute seule. Mais on sort du rôle d'auteur et on se met un peu dans un rôle d'éditeur, finalement. Et donc, ça veut dire que le roman, il est terminé et qu'il faut penser à la suite. Et donc, notre mental doit se mettre aussi sur la suite, en fait.
Mmh.
À un moment donné, on ne peut pas être dans le récit vraiment pur et dans la sortie du livre, la promotion, voilà, tout ce qui tourne autour de la suite. Donc, on sort un peu de ce rôle-là pour
ouais.
se mettre dans un autre. Et même parfois, moi, je le vois encore avec de la distance, je ne sais pas toi, Lorraine, en me disant, mais... c'est mon livre, ça va toujours pas. Parfois, c'est encore surprenant de se dire qu'on a vraiment fait ça parce qu'on rentre aussi dans une mécanique très, très pratique, finalement, de, on va en parler, mais de redéposer en librairie, gérer, etc. Et donc, on est dans un autre rôle, en fait. On oublie qu'on écrit ça.
En fait,
ouais.
Oui.
Comment vous gérez ces multiples facettes? C'est presque être chef d'entreprise créative littéraire. Vous êtes votre agente, vous êtes votre
oui.
manager, votre éditrice.
Ça devient un vrai boulot, après, d'indépendant mm-hmm. qui crée son projet, quel qu'il soit.
Ouais. possible.
Mais oui, c'est ça. Mais comme tu le disais, et là, moi, par exemple, mon livre, il est toujours pas dans ma bibliothèque. Je n'y arrive
pas. Les filles,
pas.
Ouais, ils partout chez moi, dans le bureau, à la maison, dans ma famille.
Voilà. Donc, c'est vrai que on avance, on essaye de croire en ce qu'on fait, mais il y a toujours une distance qui s'opère. Moi, je me souviens, j'ai imaginé 1500 fois le jour où j'aurais mon livre dans les mains. Mm-hmm. Je me dis, je vais sauter de joie, je vais pleurer. Et finalement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il était sur le siège passager et je le regardais du coin de l'œil en me demandant, mais qui es-tu, toi? C'était... Voilà, c'était vraiment particulier. Alors, je ne sais pas si ça se passe toujours de cette façon, tu vas un peu le dire, Hélo, mais toi, un peu comment ça s'est passé. Mais étant donné qu'on a accompagné le livre du début à la fin, parce qu'on était, toutes les deux, on est dans un processus d'auto-édition, ben, il n'y a peut-être pas eu, à un moment donné, un recul.
C'est ça.
Comme mm-hmm. pourrait... Ouais, comme pourrait peut-être, je ne sais pas, l'avoir, par exemple un auteur qui est en maison d'édition qui à un moment donné confie son roman qui est un peu
qui est moins appliqué
et qui attend finalement
en fait. Oui. Que comprenne ça pour lui quoi.
Oui, non, ici on a fait que enchaîner les étapes parce que après l'écriture, la correction, on regarde avec la graphiste pour la mise en page, l'illustratrice, on voit avec l'imprimeur pour l'impression, on le reçoit et puis on commence à distribuer. Il n'y a pas eu de stop encore dans ça. On a parlé 5-6 mois de sortie. Il n'y a pas d'arrêt. Et le livre est tout le temps dans notre tête, d'une façon ou d'une autre, que ce soit...
Dans nos cartons.
Dans nos cartons, dans notre voiture, vélo, moto, tout ce qu'on prend pour aller les conduire quelque part. Toujours avoir un livre sur soi, on ne sait jamais. Mais non, on ne l'a jamais lâché. Et c'est pour ça qu'il n'est pas dans la bibliothèque, je pense. Parce que moi, mais non plus, par contre, j'ai le tien dans ma bibliothèque,
oui,
évidemment.
Moi aussi, j'ai le tien.
Mais c'est génial, en fait.
Mais parce qu'il...
Oui,
on l'a pas encore lâché, en fait.
C'est assez symbolique, quoi. C'est tant qu'il n'est pas dans la bibliothèque, peut-être.
Il vit toujours, en fait.
Il vit toujours. Là, peut-être que le jour où vous le mettrez dans votre propre bibliothèque, c'est qu'il a vécu son temps.
Oui, il aura fait son temps, peut-être.
Je ne sais pas. C'est intéressant comme philosophie, mais justement, j'entends évoquer les étapes de l'auto-édition. Je sais que voilà, l'angle du podcast, j'avais envie aussi qu'il aille dans ce côté-là, parce que moi-même, j'ai proposé un atelier, moi, je suis aussi en mode chaleur caniculaire. Je propose l'atelier, oui. J'avais proposé un épisode podcast qui prépare plutôt l'édition, le fait de porter un manuscrit en édition, etc. Mm-hmm. C'est une aventure qui suit son cours en parallèle. Mais j'avais vraiment bien notifié dans cet épisode, je vais vraiment aller voir les spécialistes qui en parleront beaucoup mieux que moi de ce qu'est... Si, il faut reconnaître chacune où sont ses domaines de compétences et ses propres limites. Pour ma part, vous êtes devenus des experts de l'auto-édition beaucoup plus que moi parce que vous êtes dedans, comme vous le dites. Vous avez franchi toutes les étapes. Moi, je continue ma petite vie de coach et j'ai d'autres projets à suivre. Et je vois plus ou moins... de temps en temps ce qui se passe et heureusement on échange beaucoup et je peux sentir dans quelle direction ça va pour mon plaisir et pour être présente du mieux que je peux pour vous, mais c'est vous qui portez tout ça, donc moi je me tourne vers vous, c'est logique. Donc racontez-moi un petit peu, si vous deviez un peu synthétiser clairement les étapes entre vous sortez de chez Héloïse Le Mot qui délivre avec tout ce qu'il y a comme soutien autour et précieux, c'est quoi alors les étapes quoi? Parce que j'ai des auditrices là, je suis sûre qu'elles écoutent, ou des auditeurs qui disent mais moi aussi j'ai envie de publier, d'auto-éditer. Alors c'est quoi le kit de survie quoi?
Alors, il y a beaucoup d'étapes, je ne sais pas si on a le temps pour toutes les énumérer.
Oui, mais voilà, les grandes lignes peut-être.
Donc, les grandes lignes, il y a tout ce qui est administratif, donc c'est évidemment l'acquisition d'un code ISBN, donc qui est le petit code barre qu'on appose sur la quatrième de couverture et qui est obligatoire effectivement. Pour pouvoir le diffuser partout. Donc ça, c'est vraiment super important. Et puis, il y a tout ce qui est l'enregistrement auprès de la banque du livre, etc., au niveau administratif. Et puis, alors, quand on décide de le mettre dans les librairies, ce qui prend le plus de temps, finalement, c'est ça. Mm-hmm. C'est les contacts avec les libraires. Alors, avec Morane, on s'est organisé de la même façon. On a fait les documents ensemble, ou t'as fait les documents, j'ai aussi servi comme modèle sur le premier
livre, soyons honnêtes. Vous avez chacune apporté des connaissances à l'autre. Voilà.
Et on a fait ce qui était, donc c'est préparer une fiche lecture pour les envoyer au libraire en leur demandant gentiment, voilà mon livre, est-ce que vous voulez bien le mettre dans votre librairie?
Quel est le rôle de cette fiche lecture? Quelle est sa fonction plutôt?
Alors, la fiche lecture, bon, on peut la construire de façon très différente. Ce qui est bien, c'est de pouvoir noter les caractéristiques déjà du livre en soi. C'est bête, mais le fait qu'on amène un poche ou un grand format pour les libraires, ça compte.
Ouais.
Parce que le marché du livre est dense et qu'ils doivent savoir s'ils peuvent le stocker, s'ils ont la place pour le stocker et le présenter. Ensuite, on a une présentation du livre sous type aussi résumé. On peut annexer la quatrième de couverture, une photo du livre. Et alors, nous, ce qui était intéressant, je pense, c'est d'avoir noté aussi l'accompagnement qu'on a eu dans l'auto-édition.
Mmh.
Pour sortir un petit peu justement de cette image du solo édition, pour reprendre tes termes de tout à l'heure, Elodie. Non, on fait pas ça seul, on est accompagné,
ouais.
Quoi. Donc pouvoir mentionner aussi le mot qui délivre, etc.
Et d'autres partenaires.
Exactement.
Et qui dit, voilà, qui dit exactement, tu dis professionnel. L'idée, c'était de dire au libraire, oui, on est aux éditions, mais c'est qualitatif. On a mis tout en œuvre, en tout cas, pour qu'au niveau du contenu et au niveau de l'objet, ce soit le plus qualitatif possible.
Ouais.
En fait, c'est...
Et c'est comme... le signal que vous voulez lui renvoyer.
Voilà.
Quoi.
Comme Oran a dit, il y a tellement de livres qu'il faut à un moment donné se démarquer.
Mm-hmm.
Donc, dans la fiche lecture, c'est aussi qu'est-ce qui fait que je me démarque des autres. Alors, pour toi, c'est aussi la spécificité de la thématique qui était super particulière.
Merci.
Moi, Roman Feelgood, il y en a plein. Donc, je veux dire, voilà, il n'y a rien de particulier au niveau du récit. Par contre, j'avais un... partenariat avec des pâtissières qui ont réalisé des recettes, voilà, c'était un angle original qui pouvait aussi attirer ce côté-là. Donc ça, c'est hyper important de se différencier déjà dans la fiche lecture.
Oui.
Et ça passe par aussi bien ce qu'on présente au niveau de l'écrit que la photo ou le visuel conjoint.
Le visuel
de l'esthétique du bouquin est hyper important, évidemment, en rayon, mais donc du coup, quand on le transmet...
Oui, et je trouve que les libraires nous font assez de retours positifs par rapport à cette fiche lecture, et même par rapport à la fiche de dépôt, parce que là aussi, il y a quelque chose d'administratif, donc on ne vient pas juste avec ses livres déposer ses livres, on ne fait pas uniquement ça, on remplit un document de dépôt, et là on voit que tout est bien organisé, bien prévu, et ils adorent ça, donc on entend bien que ce n'est pas forcément fait toujours de cette façon-là.
Ah ouais.
Donc c'est un détail, mais bon, après on a le détail quand même de faire ça le mieux possible toutes les deux, donc c'est là qu'on se rejoint aussi, mais moi j'entends que c'est pas toujours le cas, et pourtant c'est hyper important d'avoir préparé ces deux documents, en tout cas pour faire ces démarches.
Donc écoutez bien, deux fiches qui sont vraiment le sésame vers la légitimisation de la qualité de votre démarche, en tout cas. Effectivement, et maintenant on va parler du visuel, il y a aussi le travail d'une couverture, d'une mise en page qui n'est pas anodin, qui prend beaucoup de temps aussi. Vous êtes passées chacune par deux illustratrices graphistes différentes en fonction de vos sensibilités et de ce que vous aviez envie de mettre dans le projet. Morane, j'ai envie de me tourner vers toi parce que j'ai vraiment un souvenir très précis de la rencontre de la personne, on va la mentionner, elle sera contente.
Ouais.
Perrine Dessine. Il s'est passé quelque chose d'un peu spécial qui t'a fait dire c'est elle qui va faire la couverture de mon livre et puis par la suite tout ce qui est mise en page, infographie, etc. Tu peux raconter
c'est comique parce que c'est maintenant que j'y pense et que je me dis que c'était justement à l'enregistrement du premier podcast.
Oui, je lui ai fait face au micro,
voilà, donc Perrine était là parce qu'elle venait, ça faisait quelques épisodes seulement que tu avais sorti donc elle venait un petit peut faire quelques photos pour ta com, et donc c'est tombé sur moi et puis le feeling est bien passé et elle est restée tout le temps de l'enregistrement et c'est vrai que quelque chose est passé, donc encore une fois c'est dans les yeux quand j'ai terminé le podcast je l'ai regardé et j'ai vu que quelque chose était passé, un message était passé, enfin voilà, et d'ailleurs elle m'a dit un peu en rigolant, enfin si t'as besoin à un moment donné d'une graphiste, n'hésite pas, sauf que moi ça s'était bien mis dans ma tête, et que...
Moi je connais Morane maintenant, je sais que tu dis quelque chose, c'est bien enregistré.
Voilà, mais même, je voyais ce qu'elle faisait déjà pour toi, c'était quelque chose qui, voilà, je la suivais déjà, donc je voyais un petit peu sa patte, et dans ce qu'elle donne, dans ce qu'elle dessine, il y a quelque chose de très, très enfantin que j'adore.
Mm-hmm.
dans le bon sens du terme évidemment, mais quelque chose de très doux. Et quand
oui,
j'ai
ça, voilà, rappelle un peu le titre.
Voilà, les mots deviendront doux, donc c'était une évidence. En
voilà,
fait.
J'ai l'impression ouais. qu'il y avait ça, parce que moi j'étais ouais. simplement la témoin au milieu du jeudi, et je me suis dit, oh, il se passe quelque chose. Ouais. Oui, et ce travail, on va y revenir, hein, mais on va passer peut-être à Elodie par rapport, toi c'est à Wendy hein, de chez Michael.
Donc moi, c'est d'abord, j'ai une illustratrice donc, qui s'appelle Colombine Partoon, de Côte, que je connaissais déjà, et donc j'adorais l'univers, en fait. Donc je me suis dit, ok, je veux travailler. Travailler avec elle, que tu parles de douceur, ici c'était un peu le cas aussi de Colombine qui est une personne super douce, que j'aime beaucoup. Et alors, pour la mise en page, c'est Wendy, donc de Creative Myco Creative Agency, qui a réalisé la mise en page. Et donc, elles ont fait un travail un peu conjoint, puisque Colombine, elle a fait le dessin de base, mais Wendy y a ajouté tout ce qui est la titraille, le nom, la quatrième, l'agencement, etc. Et c'est aussi super important, parce qu'elles ont travaillé, du coup, de concert. Voilà, exactement, là-dessus. Donc, elles ont fait un super boulot. Et Morane parlait des retours qu'on a des libraires sur les fiches de lecture et les dépôts. Il faut dire aussi qu'on a aussi un très bon retour sur le visuel, justement, oui. et la qualité de la mise en page, de l'impression quand on y va, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, parce qu'on s'entraide en livrant les bouquins l'une de l'autre, du coup. Voilà, on a toujours un sourire et un accueil favorable, en tout cas des libraires qui sont... quand ils arrivent
et
à prendre le temps de faire content.
Question que vous posiez, vous dites, je suis en train de couper les cheveux en quatre, et j'ai dit, mais non, si vous les posez, c'est qu'elles sont importantes pour toi. Morane, je te revois. Ouvrir, aller voir même chez toi, chez moi, dans le bureau, aller voir les livres, comment c'est fait, la taille, la grandeur.
On en a fait plein, on en a reçu.
Mon Dieu.
Oui. Le poids des pages, la
le
couleur.
Ah
oui,
quelque chose.
Les papiers. Oui. Voilà. Oui, c'était une fameuse étape.
Ben voilà, il faut aussi faire prêt pour le suivant, on aura déjà fait tout ça, donc
moi j'aime bien ce que t'en prendre. Vois, parce que c'est fait une fois, c'était une montagne d'apprentissage énorme, et puis une fois que c'est là, quoi.
Et puis c'est gai, c'est renoué avec, matériellement avec les livres qui sont dans notre bibliothèque, qu'on va ressortir pour une raison ou une autre, qu'on attire, pourquoi on les aime, on les aime pas, c'est aussi voilà, super agréable comme étape, enfin moi,
oui,
c'est prise de tête, mais...
C'est prise de tête, avec le recul, ça reste un souvenir... parfois un peu des anecdotes. Enfin, c'est vrai que j'en ai quelques-unes avec Perrine. On s'est parfois arraché vraiment les cheveux parce que ce qu'il y a, c'est que effectivement, c'est elles les professionnelles, mais elles ne vont rien faire sans nous en avoir parlé, même
oui,
au niveau du format, bébé, voilà, de l'espace interligne, de plein de choses. Quoi.
Je te revois découper des pages et les mettre dans
ça.
Un livre.
C'est exactement ça. Pour que, ben voilà, c'était pour me rendre compte des choses. Je découpais mes pages. Je les insérais au maximum dans mes livres pour voir ce que ça allait vraiment représenter. Donc voilà, c'est des changements. Oui, si on fait comme ça, mais non, finalement, c'était mieux avant. Mm-hmm. Donc c'était un fameux travail.
C'est pour ça que je me permets de revenir dessus parce que j'ai vu de loin... ou de près, cette prise de tête aussi, parce qu'il y a le fun, mais il y a aussi une prise de tête. Mais après, qui paye. Ça, je voulais souligner, que vous le rappelez à vous, mais je pense que vous en avez bien pris conscience, je voulais aussi souligner pour les personnes qui nous écoutent, c'est que c'est une prise de tête, mais le résultat, c'est que voilà, les retours des libraires, quoi. Et pas que. Vous avez certainement eu des retours de lecteurs et lectrices, moi, indirectement aussi, c'est bien, la personne que tu as encadrée, coachée, c'est super, etc. Donc, vos feedbacks, finalement, c'est la récompense. De dire, ça valait la peine aussi.
Ouais,
quoi.
Donc, c'est clair.
Soyez exigeante, exigeant, méticuleux. Ça paye d'une manière ou d'une autre. Moi, ce que je veux vous envoyer, c'est que, oui, il me semble, et je suis beaucoup plus distante, mais je ne suis pas objective non plus, je fais partie de l'aventure d'une manière, mais je ne pourrais jamais pouvoir prétendre auprès des auditeurs, des auditrices, que je suis absolument objective, mais... Je peux aussi rationaliser les infos factuelles, vérifiables, qui viennent à moi. Les feedbacks sont assez incroyables hein, sur la qualité, que ce soit l'écriture, que ce soit le visuel, que ce soit l'objet livre en main, etc. Donc bravo les filles, quoi.
Merci.
avant d'arriver sur le côté com, volet com, diffusion, comment on fait vivre, il y a le lancement, etc., comment on fait vivre le livre le plus longtemps possible, j'ai vraiment envie de m'arrêter sur ce moment. Je ne suis pas sûre qu'on ait beaucoup parlé face à un public lors de la rencontre d'autrices du mois de juin, mais c'est quelque chose que parfois vous m'amenez d'un côté ou de l'autre en rencontre, en réunion. C'est quoi ce moment où vous avez ce livre, et pas le BAT, et pas l'objet voilà, tiré, imprimé la première fois, mais le vrai livre, la première fois que vous l'avez dans les mains. Là, je vais me tourner vers Morane parce que tu as déjà un petit peu ouvert la parenthèse avec ce livre sur le siège de ta voiture. Mais ça fait quoi d'avoir son tout premier livre, parce que c'est le premier, qui est là avec votre nom dessus, le titre, la jaquette, et qu'il va juste dans une journée arriver dans les mains des gens?
Mais c'est une question à laquelle je n'arrive pas encore à répondre 5 mois après. Je vais être tout à fait honnête. Ouais. C'est vrai que je le regarde encore comme ce premier jour, comme ce bon à tirer, en me disant, es-tu vraiment à moi, toi? Est-ce que c'est vraiment moi qui t'ai créé? Alors on est fiers, parfois on doute. Voilà, ça fait partie aussi du jeu, je crois, et c'est ce qui nous pousse, ça aussi. Je pense que c'est une bonne émotion parce que ça nous pousse à aller encore plus loin, peut-être, avec cet objet. Mais c'est vrai qu'il y a parfois encore des doutes, même s'il y a une fierté, mais difficile, je trouve, quand même, à sortir. Il y a quelques jours, on en parlait avec Élodie, où j'ai fait un petit visuel avec le parcours justement très rapide de ces 5 mois qui viennent de passer, et elle me disait, mais c'est là que tu te rends compte vraiment de tout ce qui se passe, parce qu'on voit les rencontres, tout tourne autour du livre, quoi. Et ben oui, c'est vrai, quand on check un petit peu ce qui vient de se passer, c'est vrai que là, il y a peut-être une prise de conscience sur ce qu'on a créé. Mais encore une fois, le fait d'être encore le nez dans le guidon, c'est
ça, ouais.
C'est irréel, en fait. C'est très, très irréel, je pense, pour rejoindre vraiment ce que tu dis. On se rend pas... Enfin, pourtant, il est là. Matériellement, on ne peut pas l'ignorer. Il y a des caisses qui prennent de la place. Il y a beaucoup moins de caisses maintenant, parce que finalement, c'est quand même vite parti. Mais voilà, oui, des caisses qui sont là, des livres, des gens qui envoient des messages avec des retours. Et parfois, tu te dis, c'est mon livre qui parle. Enfin, c'est vraiment encore tellement irréel. Ouais. Et comme tu dis, il faut peut-être prendre le temps de faire un... Enfin, comme on a discuté, peut-être prendre le temps de faire un feedback en se disant...
Un petit peu en arrière, quoi.
Voilà, on a fait tout ça. Et en fait, bah, waouh, quoi, on a quand même fait tout ça en peu de temps. On n'a pas chômé, ça n'arrête pas. C'est tout le temps, c'est encore pendant de nombreux mois, parce qu'on a encore des dates des rencontres prévues. Mais oui, c'est un truc de fou, quoi, franchement. Ouais. C'est...
Surtout quand il y a des personnes qui viennent, et d'autant plus de vive voix, nous dire en direct, « Ah, j'ai acheté ton livre, je l'ai lu, ou je vais le lire, mais j'ai acheté ton livre. »
Ah oui, cette phrase qui vous vient.
Oui, et c'est là que je me demande toujours, mais... Comment ça se fait? Alors que j'essaye de le mettre partout et voilà.
C'est très antagoniste.
Mais voilà, oui. S'il pouvait être même encore dans plus d'endroits, enfin, on travaille pour, mais on a quand même déjà chacune une bonne liste de lieux où on peut acheter le livre. Mais même avec ça, on se dit, mais comment ça se fait que tu as mon livre, quoi? Il y a un petit quelque chose comme ça qui se passe. Et ouais, donc encore un peu dans l'irréel, comme Élodie le dit.
C'est intéressant parce que justement, moi, je vous chope là à la fin de l'été. Pour la petite anecdote, on était censé se voir au début de l'été pour plein de raisons qui étaient qu'on avait toutes les trois des agendas et ça, voilà. Mais c'est marrant parce qu'en fait, on a toutes pu avoir, entre guillemets, nos vacances, notre pause. Et j'ai l'impression que ce pas de côté, il peut tout doucement seulement se faire maintenant. Et j'ai même l'impression qu'il y en a quand même un qui est encore vachement bien dedans.
Oui.
Donc, mais c'est intéressant parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on en voit beaucoup en coaching, que ce soit n'importe quel type de coaching ou d'accompagnement. Mais ici, dans le projet créatif, c'est de pouvoir aussi appuyer sur pause. C'est très difficile. Faire un pas de côté ou prendre de la hauteur. C'est-à-dire faire l'aigle et aller voir, tiens. Et là, j'ai l'impression, moi, je vous l'envoie vraiment comme encore un dernier petit conseil bienveillant, de pouvoir savourer, célébrer. Je pense que vous savez, ça, célébrer, il y a eu des belles fêtes, il y a eu des beaux moments. Mais célébrer, c'est une chose, et apprécier, savourer, c'en est une autre. Et j'ai envie de vous dire, voilà, j'ai l'impression que ça commence, j'entends vos... parce que voilà, la tête dans le guidon, c'est une belle aventure. Et moi, ce que j'aime bien rappeler très souvent, c'est que c'est l'aventure aussi, la merveilleuse histoire avant tout. Je ne sais pas si vous partagez ou si je suis à côté de la plaque.
Non, t'as raison.
Évidemment, c'est merveilleux et je le souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ce moment. Je me le souhaite à moi aussi, de pouvoir voir ce livre dans les mains de gens. Mais j'ai cette intuition folle que l'aventure, finalement, elle est tout aussi merveilleuse.
Ça, c'est certain.
Plus, ouais.
Enfin, je le disais encore il y a 2 jours à une nana qui est venue chercher le livre chez moi. Et voilà, c'est vrai que vivre du livre, c'est impossible. Hein. Mmh. Voilà, c'est un petit truc en plus dans notre vie, mais c'est plus une passion, c'est plus le fait de vivre ça, cette aventure, qu'autre chose.
Ouais.
C'est pas une aventure financière, quoi.
Voilà, oui.
C'est une vraie aventure de vie, de projet, et ça vaut tout l'or du
et
monde.
Et c'est là que la passion intervient, ouais. Voire même la vocation, mm-hmm. J'ai envie de dire.
Autant l'écriture, c'est beaucoup de plaisir, le moment d'écriture, c'est vraiment beaucoup de plaisir personnel. Mm-hmm. Autant la publication d'un livre, c'est vraiment autre chose, c'est incroyable, moi j'aurais jamais pensé recevoir autant d'amour des gens. Je dis amour parce que je sais pas quoi mettre d'autre comme mot en fait dessus.
C'est le bon mot.
c'est dingue quoi, les gens qui font des retours, qui savoir qu'ils ont acheté votre livre et qu'ils ont passé quelques heures avec en passant un bon moment, que ça leur a redonné envie de lire, que qu'ils ont pris du plaisir simplement. Je trouve que c'est tellement ça a du sens en fait. On se dit on a apporté un peu de bonheur à quelqu'un ou quelqu'un qui se sent plus apaisé ou plus voilà, il y a par rapport à ce que notre livre diffuse comme émotion. Et rien que ça, c'est tellement gratifiant. En fait, comme tu dis, ça vaut tout l'or du monde. Parce que là, moi, j'en ai vendu un certain nombre. J'ai pas encore récupéré mes frais. Mais voilà, c'est tellement... Ça vaut la peine pour tout le reste. Parce que sans l'avoir fait, on peut pas imaginer le sentiment que ça procure, je crois.
Mm-hmm. J'aime bien ce que vous amenez. Parce que ça, c'est vraiment l'aventure littéraire, créative d'un livre. Moi, j'ai tendance très souvent à associer à une aventure entrepreneuriale parce que vous êtes aussi dans l'entrepreneuriat, dans le fait que vous avez toutes ces casquettes et métiers différents pour faire vivre votre passion. Mais voilà, il y a aussi ce côté, finalement, oser y aller, le faire avec l'envie, le feu sacré. Et je vous vois encore plus vous animer maintenant qu'on en parle. Donc là, on ne peut pas le voir parce que c'est une écoute. Mais moi, je vous vois devant moi et on voit qu'il y a des choses dans vos yeux, dans la façon dont vous gesticuler, etc., qui est le feu sacré de la passion de ces merveilleux. Et j'ai envie de vraiment souligner ce que vous amenez pour les personnes qui douteraient encore, on y va, on n'y va pas. Il faut oser, ceci dit. Hein. C'était mm-hmm. le titre d'ailleurs de la rencontre. C'est oser publier, quoi. Oser s'auto-éditer. Mm-hmm. C'est merveilleux, franchement, hein, bravo pour ça. Il reste une dernière étape qui est, vous l'avez dans les mains, avec tout ce que ça peut avoir d'ambivalence, d'ambiguïté. Comment on parle de soi. Vous n'avez pas de chargé de com, hein, vous n'avez pas tout un système de revues de presse et de managers, voilà. Donc comment on parle de soi. Je pose cette question, elle est compliquée pour tellement de personnes. Moi, je vais vraiment m'avancer même sur le terrain de... C'est très compliqué pour les femmes de se mettre en avant. Et là, au service du projet, au service de ce livre qui doit entrer dans des librairies, qui doit aller dans les mains des gens, comment on dépasse... cette timidité, parce que, soyons honnêtes, il y a une timidité au départ chez chacune. Comment on dépasse ça, quoi? Et Léo, parce que toi, j'ai envie d'aller vers toi, parce que t'es quand même, ton métier est quand même du coup dans la communication. J'ai envie de venir voir aussi ton éclairage, que ce soit perso en tant que femme, mais aussi avec l'éclairage de la pro de la com, quoi.
Je crois que je passe mon temps à dire à mes clientes qu'il faut mettre de soi, surtout quand on communique sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Et puis quand il s'agit de soi-même, on est un peu dans la merde. Donc théoriquement c'est très c'est, donc je sais effectivement tout ce qu'il fallait faire au niveau com d'un point de vue très théorique. Mm-hmm. Donc pour moi, c'est-à-dire pour revenir sur des conseils pratiques, c'était clairement un communiqué de presse envoyé aux médias, c'était les contacts avec les instagrammeuses, les contacts avec toutes des instances qui peuvent faire promotion de livres. Il y a toute une série de choses, en tout cas les réseaux sociaux, évidemment la création d'une page Facebook, Instagram, newsletter, etc. Donc, d'un point de vue très pratique, mon plan de com, je l'avais fait déjà longtemps à l'avant, je savais ce que je voulais mettre, etc. J'étais prête. Maintenant, il faut mettre de soi, et tous les jours, il faut encore mettre sa tête, comme je dis, sur Instagram, raconter ce qu'on fait.
Ah oui,
et moi, j'ai l'impression d'être pas tout à fait moi, en fait. C'est un peu comme un costume qu'on endosse, finalement. Morane vous expliquera à quel point elle aime les salons littéraires après. Mais c'est un peu, finalement, on sait... qu'on doit y passer, c'est une étape obligée, en fait, une étape obligée, parce que, ou alors il faut appuyer sous un faux nom, finalement, il faut un peu comme Kid Noise, il faut montrer sa tête, c'était une option, là, je l'ai envisagé, évidemment.
Ben, j'y ai pas pensé, moi.
Mais c'est une étape obligée, et on sait qu'il faut y passer par là, en fait, ouais. Donc c'est vraiment, voilà, se mettre dans un rôle, et dire, ben voilà, je suis dans mon rôle d'écrivain, entre guillemets, aujourd'hui, d'auteur, et donc, voilà, endosser un peu ce costume-là, c'est pas facile tous les jours, on a peut-être pas envie tous les jours non plus, finalement.
Ouais.
Mais c'est un peu ça. Tu as parlé de plusieurs métiers ou facettes de notre activité. Bah, ça fait partie d'un costume, comme tu as peut-être ton costume de maman, d'entrepreneuse, de femme,
exactement,
etc.
Voilà, c'est un rôle qui s'ajoute aux autres. Et n'importe quel anthropologue nous dira qu'on porte de toute façon des masques, on endosse des rôles tout le temps, finalement. Moi, je vous l'envoie pour simplifier un peu tout ça, même si effectivement, on sait que c'est beaucoup moins facile qu'on doit se l'appliquer à soi-même. Toi, Morane, comment ça se passe quand tu t'es dit là, il va falloir en parler, quoi.
Syndrome de l'imposteur, bonjour.
Voilà, on en parle. J'aime bien votre transparence, c'est important, on peut envoyer ça aux autres qui nous écoutent.
Bah, heureusement que j'ai eu Élodie, quand même, à ce moment-là. Parce que franchement, moi, je n'y connaissais absolument rien. Alors oui, je suis beaucoup sur les réseaux, mais à ce moment-là, je n'ai jamais eu pour habitude de montrer ma vie. Je regardais plus, moi, j'étais de ce côté-là. Je regardais les autres. et donc, bah, oui, comme tu l'as dit, il a fallu un petit peu se montrer. Et les gens, bah, je pense qu'ils ont envie de voir qui est derrière le livre, que de montrer toujours le livre. C'est comme ça. Nous-mêmes, si on prend un peu de recul, c'est ce qu'on aime voir aussi. Donc, parfois, c'est compliqué. Alors, au début, j'ai essayé d'avoir une trame assez précise, quelque chose de visuel qui soit cohérent sur mes réseaux. Et puis, j'ai laissé tomber. Parce que, en fait, voilà, ça ne me parlait pas. C'était pas moi.
Tu voulais un truc plus intuitif.
Voilà. Ouais. Donc, je suis partie sur quelque chose de plus intuitif. Ça me convient bien. Je monte un œil, une moitié de visage ou quelque chose comme ça. Ça va.
C'est créatif aussi.
Voilà, c'est créatif aussi. Et on avance, quoi. Mais voilà, ça, c'est plutôt l'aspect réseaux sociaux, mais qui est très important. En 2022, surtout si on doit, enfin, on se fait connaître seul, quoi, sur ce coup-là. Oui, on n'a pas une maison d'édition derrière nous, même si c'est peut-être sûrement quelque chose que j'ai déjà dit, mais moi, pour moi, en 2022, l'auteur, même en maison d'édition, même en grande maison d'édition, doit aussi faire sa promo.
Tout à fait.
Donc,
ouais,
je pense. Mais voilà, après, tout ce qui est comme, bah, ça, on parle de salons littéraires, on parle de rencontres,
dédicaces,
on parle aussi d'aller chercher des radios, des médias, enfin,
ouais.
Voilà, donc tout ça, c'est très 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 compliqué.
Vous n'arrêtez jamais, en fait.
Non. Non, parce qu'on relance aussi.
Il faut que ça dure aussi.
Oui.
On sait bien, pour avoir quelques notions de communication et une experte avec nous, que le lancement, c'est une chose, mais après, ça s'essouffle à un moment donné et qu'il faut trouver la
manière voilà.
De faire vivre. Parce que c'est un beau projet. C'est pas un produit lambda. C'est un projet qui est tellement rempli de sens pour vous.
Et même quand on va redéposer son livre, enfin, on redépose ou on dépose pour la première fois son livre, donc on y va parce qu'on a eu un accord, généralement. Mais même là, il y a encore une démarche à faire.
Faut convaincre.
Il y a encore de soi à donner. Moi, je le ressens très, très fort.
Ouais.
Très, très fort.
C'est
donc,
très
je suis déjà très sensible à tout ça. Je suis sensible à me mettre en évidence, d'autant plus de face à face. Donc, c'est ça que tu disais tout à l'heure, comme j'aime les rencontres littéraires. Évidemment, j'aime bien de rencontrer les gens, mais... Les journées, parfois, sont très longues. On n'a pas une file de 50 personnes non plus.
Hein. Ah bon ?
Voilà. et que parfois, moi, j'observe énormément, il y a des auteurs qui se mettent vraiment en valeur sur leur stand, qui vont chercher les gens. Et moi, je suis incapable de faire ça. Et de toute façon, je ne veux pas faire ça.
Oui.
Mais c'est parfois compliqué de donner de soi de cette façon.
C'est très intéressant parce que vous amenez vraiment votre vérité par rapport à cette expérience. Et je sais aussi que j'ai l'impression d'avoir pu observer à travers vos expériences que vous avez aussi pu faire le tri entre ce que vous aimez faire et ce qui n'est pas pour vous, quoi. Et je trouve que c'est une nouvelle aventure aussi de découvrir ça.
Et
selon quoi je suis bonne ou j'ai pas envie de m'investir. Voilà.
Tout à fait. Et Morane parlait de se mettre aussi en avant quand on va vers les libraires, par exemple. On remarque typiquement qu'il y a deux sortes de libraires, enfin, surtout beaucoup plus, mais C'est les libraires qui vont vraiment vous poser des questions, s'intéresser, vous demander de raconter, prendre le temps, lire votre livre et donc en faire la promo. Mm-hmm. Et puis, il y a malheureusement l'une ou l'autre librairie où on a l'impression que notre roman est planqué derrière d'autres et où finalement, on n'a pas beaucoup d'intérêt.
Ouais.
Donc ça fait aussi partie, tu disais, de la mise en avant, mais de l'intérêt qu'on accorde aussi.
Ouais, et des feelings qui passent.
Et des feelings qui passent avec des libraires. Voilà, là où on a des dédicaces, il n'y a rien à faire. C'est des libraires qui sont géniaux, ouais. Franchement. Mm-hmm. Et voilà, moi, je vends plus dans des petites librairies que dans des grosses librairies parce qu'il y a aussi souvent une application du libraire finalement qui est là qui est vraiment importante.
Oui, c'est une constante remise en question parce qu'au début c'était mettre partout à tout prix, ah, c'était un peu ça et puis finalement encore une fois on en a parlé il y a quelques jours où on se dit mais est-ce que c'est toujours la bonne stratégie quoi. Enfin voilà.
On envisage d'aller en rechercher dans certaines librairies, clairement.
C'est une réflexion du moment, parce que c'est toujours en phase d'apprentissage, découverte de certaines
c'est
choses.
C'est ça.
Quoi.
Puis déposer des livres, ça veut dire, et qui ne se vantent pas, c'est aussi perdre du stock de livres,
oui,
quoi.
Oui, bien sûr.
Donc ça aussi, il faut penser. Enfin, moi, je n'avais pas du tout conscience de ça quand j'ai commencé à déposer mes livres, c'est « Ok, j'en ai plus que 50 en stock, mais ça ne veut pas dire que tous ceux que j'ai imprimés ont été vendus,
non. »
Il
faut aller peut-être rechercher aussi.
Rechercher, penser à une réappression, mais en tenant compte de tout ça, quoi. Donc, c'est pas toujours facile à calculer.
C'est un vrai métier, en plus de votre métier, évidemment. Ça, c'est quelque chose de très, très important à
On a la grande chance d'être toutes les deux dans cette aventure, franchement.
Aussi bien pratiquement que psychologiquement. Comment, je pense, le soutien est double.
Mais je crois que dans n'importe quelle nouveauté que l'humain traverse, c'est gai de se sentir avec... Moi, je vais parler du récit initiatique, vu que je vais parler avec mes outils et mes compétences, bah, c'est toujours gai, le compagnonnage. Il y a toujours un compagnon dans l'histoire d'une quête. Et parfois, vous êtes le héros, parfois c'est le compagnon, et inversement, pour l'autre, enfin, la compagnonne. C'est génial. J'ai envie de vous poser cette question pour vraiment... pouvoir encore envoyer quelques infos utiles aux personnes qui nous écoutent. C'est quoi les atouts de l'auto-édition qui vous ont vraiment fait pencher dans la balance on va être dans l'édition indépendante, c'est finalement là qu'on va aller.
C'est personnel, je crois, à chacun, du coup, mais moi, c'était le contrôle. Je voulais travailler avec une telle illustratrice, une telle graphiste, je savais ce que je voulais comme couverture, j'avais pas envie qu'on m'impose un standard d'une maison d'édition. Alors je comprends bien que chaque maison d'édition a sa ligne, évidemment. Voilà, mais moi c'était le contrôle en tout cas de ce point de vue-là. C'était à mon sens l'avantage. Et alors l'autre avantage, si ça peut en être un, mais à moyennement, c'est finalement la part qu'on gagne sur le livre est plus importante. Même si, en fait, elle est plus importante théoriquement sur le montant même. Mais par contre, si on doit compter toutes les heures qu'on passe à la librairie ou les frais d'essence, ce n'est plus du tout une part importante, elle est réduite à néant. Mais c'était l'idée de dire, bah mince, je fournis, j'ai l'impression, 100%, enfin pas 100% du travail, mais 70% du travail, et je touche que 8% par une maison d'édition. Ouais. Ça me semblait pas juste. Alors, je pense que chacun prend sa part, justement. C'est juste le prix du livre qui est pas assez cher. Mais voilà, pour moi, les deux avantages, c'était, je me disais, allez, je vais, voilà. Et surtout que la com étant mon métier, je savais que j'allais quand même vouloir le faire moi-même. Voilà, c'est donc vraiment le contrôle et cette partie-là, pour moi, les deux avantages. Maintenant, c'est très personnel, évidemment.
Oui, et ça, je pense que c'est bien de l'amener comme un postulat, où c'est vraiment vos visions personnelles avec cette aventure personnelle. Et je pense que les gens vont le recevoir tel quel. On n'est pas là pour dire qu'est-ce qui est mieux ou moins bien, parce que
non.
Moi, j'ai des envies d'édition et je peux aussi très bien voir. Tout ce que ça apporte de votre côté, et je pense que c'est là juste deux choses qui coexistent, quoi. Moi, je le vois comme ça, en tout cas, personnellement. Et toi, Morane, qu'est-ce qui est l'atout, quels sont les atouts, les arguments, entre guillemets, qui t'ont fait pencher du côté auto-édition?
Je rejoins quand même Élodie, ça c'est certain. Maintenant, je vais aller plus du côté atout pour vraiment pouvoir mettre ça en œuvre. Je pense qu'il faut avoir une capacité d'organisation quand même assez importante. Parce que ça demande énormément d'organisation, justement,
ouais, je sais pas comment
entre
vous avez
tout.
Fait, je devrais me coacher un jour.
Et quand même avoir conscience qu'il faut dégager du temps pour ça.
Beaucoup de temps.
Beaucoup de temps.
Bah, même... temps du fun, hein, j'entends aussi qu'il y a des moments...
Évidemment, mais le temps, c'est pas toujours négatif, hein, mais il faut en tout cas, se dire, ben, j'aurai, dans la semaine, j'ai quand même quelques moments pour pouvoir voilà, dégager du temps pour aller déposer mes livres en librairie, pour gérer mes mails par rapport aux médias, contacter les différents médias, etc. Donc ça c'est important, le temps, l'organisation. Ouais, voilà.
On arrive tout doucement à la fin, on pourrait encore parler effectivement 2-3 heures, on fera peut-être deux épisodes plus tard pour encore la suite, parce que ça n'arrête pas,
non.
Et je vous souhaite que ça dure super longtemps. J'ai envie de vous poser cette question à la fraîche, en mode flash intuitif, un gros coup de down et un gros coup de boost, quoi, Morane.
Moi, d'abord.
En toute transparence,
Dame, je dirais, c'était au moment de la pression. J'en garde un souvenir assez particulier parce que gros coup de stress, avec un imprimeur qui ne me répondait pas. Et donc voilà, j'ai quand même beaucoup stressé à ce moment-là. On a, grâce à Perrine, donc ma graphiste, on a pu avoir une solution rapide et un plan B.
Une pro, toujours avoir des pros.
Voilà, toujours, heureusement. Voilà, évidemment, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est passé. L'imprimeur avait sûrement ses raisons. Je ne reste pas là-dessus, mais c'est vrai qu'au moment de la pression, quand on est vraiment à ce moment-là, généralement, la date, on sait la date à laquelle sort le livre. Donc, on ne peut pas repousser. Donc, c'est vrai que ça peut mettre un peu de pression à ce moment-là. Mon plus beau moment, je dirais que c'est la soirée que j'ai, même si tu n'étais pas là,
j'ai presque envie de pleurer là, qu'on l'évoque, franchement, c'était beaucoup de combat, mais en même temps beaucoup d'amour à distance, que je vous envoyais.
Ça, c'était donc une soirée que j'ai organisée. Bon, on n'est pas obligé de faire ce type de soirée, juste un peu après la sortie du livre, 2 semaines après, où il y avait mes proches, il y avait les nanas qui sont tout autour de du projet, cercle d'écriture, Elodie, qui n'est pas dans mon cercle vraiment, elle est dans le cercle 2. Moi, je suis dans le 1.
C'est ça qui communique.
Voilà. Et alors, il y avait toutes les personnes qui font partie du livre en soi, parce que c'est un récit de vie, donc ce sont des vraies personnes à l'intérieur, et donc elles étaient aussi présentes lors de cette soirée. Donc avoir tout ce beau monde autour de moi, j'avais préparé un discours, donc j'avais pas spécialement envie de lire, mais c'était tellement important que je le fasse finalement, parce que tout ce que j'ai dit ce soir-là, c'était pour ça que ces personnes-là étaient là, et j'ai reçu énormément d'amour. J'ai l'impression que la soirée est passée en un éclair, évidemment, un peu partout, jamais vraiment quelque part, mais ouais, ça c'était...
Mais t'as cette impression générale qui est restée intacte, qui est empreinte...
Rien que pour ça, je le refais 50 fois.
J'ai envie juste de te remercier, parce que par un concours horrible de circonstances que ni toi ni moi ne maîtrisions, je n'ai pas pu être présente, et Morane m'envoie un petit message vocal où elle me... J'ai presque envie de pleurer. Où elle m'envoie le discours. Et j'étais en train de chouler dans ma voiture en l'écoutant. Donc, même à distance, même avant, après, il y a tellement, effectivement, d'amour qui gravite autour de ce projet, autour de toi, que ça se ressent des ondes et des ondes au loin autour. Ça, c'est ce que je voulais t'envoyer. Mm-hmm. C'est un gros coup de boost. On le reçoit, évidemment. Merci. Et toi, Hilo, un coup de down et un coup de boost?
J'ai du mal à identifier un coup de down, mais... Pour être honnête, il y a plein de coups de down dans cette aventure. Mm-hmm. À chaque fois qu'on appelle une librairie et qu'on apprend qu'elle en a vendu un en 6 mois, par exemple, ça arrive, il y a des librairies où ça ne marche pas bien ou pas du tout. On se dit, ben mince, j'ai loupé un truc, voilà, est-ce que...
Tu prends personnellement à ce moment-là ?
Oui, moi je le prends personnellement, je me dis, ça veut dire que mon livre ne se démarque pas assez, qu'il n'est peut-être pas assez bon, qu'il est trop marquant tout le temps. Alors pourtant à côté, tu en as d'autres qui marchent bien, etc. Mais à chaque fois... À chaque fois, je le prends comme un down quand même, ou un refus d'une librairie. Ouais. Voilà, c'est quand même... il faut l'encaisser. Donc, je pense que c'est aussi en toute transparence de le dire que voilà, c'est pas toujours tout rose, c'est pas toujours tout facile, ça marche pas si facilement que ça.
Mais ce podcast, c'est pour parler de la vraie vie des vrais écrivains qui veulent...
Dans la vraie vie. Et au niveau des coups de boost, il y a évidemment... tous les retours. Moi, à chaque fois, je suis remplie d'amour. Et puis, il y a eu pour ma part quand même un grand moment où je me rappelle, je me suis dit, tout au début, je me suis dit, mais ouais, est-ce qu'on parle bien de moi, de mon bouquin, quand on m'a proposé de soumettre mon roman au prix littéraire Saga.
Ouais.
Là, c'était quand même voilà, c'est une reconnaissance par une chroniqueuse ouais. littéraire. Je me suis dit, waouh.
Voilà.
Et je me suis dit, mais là, je me suis dit, c'est, effectivement, est-ce qu'on parle à moi, on parle à quelqu'un d'autre. C'est pas si bon quand même, il est sympa, mais voilà, c'est
pas
non plus. Ça, ça m'a. Voilà, vraiment.
Je suis déçue, moi, je croyais que c'était moi. Un coup de boost.
C'est mon coup de boost de tous les jours, évidemment.
Ah, elles sont géniales, si vous saviez, elles sont géniales. Mais il y a des choses.
Mais elle est là pour, on est là pour se rebooster, je pense, l'une l'autre, dès qu'il y a un coup de mouche.
Et beaucoup de gens autour de vous le voient. Ma dernière question, et merci de nous partager tout ça avec cette vérité à chaque fois que vous vous assumez, et que vous assumez depuis le début, dans vos récits et autour, c'est les mots qui délivrent. Je sais que chacune avait eu son épisode respectif pour le projet, le début du projet, mais j'ai envie de vous reposer la question. Mais avec aujourd'hui, la Élodie Christophe, la Morane Terrier, autrice, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un mot ou des mots qui vous délivrent par rapport à tout ça, quoi, Morane ?
Intuition.
Ouais.
Voilà, c'est ce que j'ai envie de donner là, maintenant. Mm-hmm. Et c'est ce que j'ai envie aussi de... Parce que j'ai fonctionné beaucoup avec ça, finalement. Et j'aimerais bien que ça... qu'il y ait davantage d'ancrage sur ce mot. Enfin, voilà, je suis dans une période, justement, ça fait 5 mois que le livre est sorti, où on se repose beaucoup de questions, on se pose des questions pour l'avenir, on a d'autres projets. Et donc, j'aimerais vraiment...
comment canaliser est-ce... ça.
Voilà, canaliser ça et vraiment, oui, c'est ce mot-là, intuition. Mm-hmm. Intégrer ça en moi.
Déjà, elle était déjà là depuis le début, hein, pour refaire l'histoire, aller réécouter le premier épisode. Vraiment, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est tellement en toi et qui ne fait que se muscler, gonfler, grandir. Voilà, donc, merci, c'est un beau mot, c'est bien qu'ici, c'est précieux. Et toi, Elodie, un mot ou des mots qui te délivrent aujourd'hui en tant qu'autrice?
Moi, je dirais oser. Parce que on n'a qu'une seule vie, il faut pas attendre que ce soit trop tard et pas avoir de regrets. Il faut la vivre au maximum et tenter de réaliser ses rêves si on peut.
Ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez déjà fait avec ce premier livre auto-édité chacune. Moi j'ai la banane, j'ai un sourire qui me monte sur toutes les joues, ça fait presque mal parce que vous êtes juste merveilleuse. Merci, je suis sûre que vous avez pu envoyer plein de tuyaux, plein de choses, plein de bonnes ondes aux plumes qui nous écoutent et peut-être pour la suite, soit des projets nouveaux, soit la suite de l'histoire du livre, soit de nouveaux livres. Je sais qu'il y a des choses en route pour certaines et des projets pour d'autres. Ce sera pour une prochaine fois. Un grand merci.
Merci à toi.
Merci.
Merci beaucoup.
Voilà, cette petite bulle intime se referme. Merci à toi, belle page, blanche, brouillonne, bien écrite, d'avoir écouté. Merci à toi, belle plume, précoce, naïve ou affûtée, d'être curieuse et d'explorer. Si toi aussi tu veux te plonger dans l'univers magique et thérapeutique des mots, tu peux découvrir mes ateliers d'écriture et de bibliothérapie, ainsi que mes accompagnements individuels sur mon site internet, sur Facebook ou Instagram. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oublie pas. Respire et laisse les mots te délivrer.